Mario hésite. Je le sens très ému. Ce sujet semble difficile à aborder pour lui. Après une bonne minute d'hésitation, il s'avance au bord de son siège, se penche en appuyant ses coudes sur ses genoux et commence à parler en regardant le plancher.
Je n'ai jamais aimé parler de ça. Ce fut une période très difficile pour moi et pour toute la famille. En voilà une vraie injustice. J'ai trouvé très injuste qu'il parte ainsi, en laissant ma mère seule avec 4 enfants. Je suis l'aînée, et j'avais 14 ans au moment de son décès, et ma sœur la plus jeune avait 6 ans. Mon père avait une assurance vie, mais il a fallu que ma mère calcule sans cesse pour arriver à joindre les deux bouts. J'ai dû arrêter mes études à 17 ans pour aider maman, en acceptant le premier emploi venu, pourvu qu'il rapporte de l'argent à la maison. Sais-tu ce que je voulais devenir? Un avocat. L'année précédant la mort de mon père, je lui ai fait part de ce rêve et il s'est moqué de moi. Il a littéralement éclaté de rire. Son rire m'a fait mal à un point tel que j'aurais voulu lui sauter dessus.
T'es-tu senti rejeté à ce moment-là?
Évidemment que je me suis senti rejeté. Il n'y est pas allé par 4 chemins pour me faire savoir que je me prenais pour un autre, qu'il me trouvait prétentieux et que, de toute façon, je ne réussissais pas assez bien à l'école pour viser si haut. Ensuite, il m'a bien fait comprendre que jamais il ne dépenserait son argent pour ça, parce que, selon lui, tous les avocats étaient des voleurs. Je ne lui ai jamais reparlé de ce projet, mais je m'étais bien promis que j'y arriverais, malgré lui. Pourquoi fallait-il qu'il meure aussi jeune? Il avait 50 ans et il était camionneur. Un jour d'hiver, après avoir roulé pendant 18 heures à cause d'une tempête de neige, il a ramené son camion à la compagnie et il est arrivé à la maison à 4 heures du matin. Il ne pouvait pas garer son auto sur la place de stationnement de la maison à cause de l'accumulation de neige. Ce jour-là, il était interdit de se garer dans la rue à cause du déneigement qui était prévu à 8 heures. Comme mon père voulait dormir plusieurs heures sans avoir à se lever pour déplacer son auto, il est entré à la maison, a mangé un sandwich, puis a avisé maman qu'il allait déneiger l'entrée. Maman s'est rendormie à son réveil, ne voyant pas papa, elle est allée dehors et l'a trouvé mort, étendu par terre à côté de son auto. Il avait juste eu le temps de finir le déneigement, de garer l'auto à sa place et de la fermer à clé avant de s'écrouler par terre. Mario se redresse, nous regarde toutes les deux avec les larmes aux yeux. Je lui offre un mouchoir et un verre d'eau. Il se ressaisit et continue. Tu m'as demandé si j'avais vécu des injustices. Eh bien, celle-ci est-elle suffisante? Je n'ai jamais revécu une période aussi difficile depuis. Je voyais tous mes rêves s'effondrer. Pourquoi fallait-il, en plus, que je sois l'aîné de la famille? C'est justement à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus aller à la messe. Je ne voulais plus rien savoir d'un Dieu qui s'amuse à punir les gens comme ça. J'ai commencé à me réconcilier avec Dieu uniquement après le cours « Écoute ton corps ». Ça m'a rassuré d'apprendre qu'un Dieu qui punit, ça n'existe pas. Ça m'a aidé à diminuer la colère que je vivais depuis cet âge-là.
Alors, Mario, es-tu d'accord pour dire que tu as aussi accusé ton père d'être injuste et de t'avoir rejeté? C'est dommage qu'il soit décédé, car tu aurais pu apprendre des choses intéressantes sur ce qu'il a lui-même vécu avec son propre père.
Il n'a jamais beaucoup parlé de son père. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'il était jeune lui aussi quand son père est décédé des suites d'une péritonite. Il aimait aussi répéter que son père aimait beaucoup lire, qu'il ne faisait pas grand-chose dans la maison, que sa mère devait s'occuper de tout avec les garçons et qu'il ne serait jamais comme son père. Sapristi, je viens de faire un lien. Est-ce pour ça que papa ne voulait pas que je fasse des études universitaires et qu'il a choisi le métier de camionneur? Je ne lui ai jamais dit, mais moi aussi, j'ai souvent pensé que je ne voulais pas être comme lui. Je le trouvais grossier, vulgaire même. Ses amis camionneurs et lui aimaient se raconter des blagues très crues quand ils se rencontraient. Ils mangeaient comme des cochons en buvant beaucoup de bière. J'avais un ami dont le père était médecin, et quand j'allais chez lui, je trouvais que ses parents avaient beaucoup de classe et j'aimais ça. Je me disais qu'un jour, je ferais un métier noble et reconnu, que j'aurais de la classe moi aussi, et que mes enfants seraient fiers de moi.
Mario s'arrête. Un gros sanglot lui noue la gorge.
Il ne peut plus se retenir. Il fond en larmes. Anna se lève, se dirige derrière lui et le prend par le cou. Elle pleure avec lui. « Mon trésor, je suis si contente que tu puisses parler de ton père. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, car tu as toujours refusé d'en parler quand je te posais des questions. Préfères-tu que je sorte pour que tu sois seule avec Lise? Est-ce que ce serait plus facile pour toi ?» Mario continue de pleurer, tout en se calmant peu à peu. Il fait signe que non et serre très fort la main d'Anna. J'en profite pour sortir du bureau, les laissant seuls quelques minutes. À mon retour, Mario continue de se confier. En parlant, j'ai réalisé à quel point je ne voulais pas être comme mon père. Tu as raison, Lise. L'histoire se répète d'une génération à l'autre. Je comprends mieux pourquoi mon fils ne veut pas me ressembler. Sapristi, pourquoi est-ce si difficile d'avoir une bonne relation entre parents et enfants? Combien faudra-t-il de générations avant que ça aille bien? Tu connais la réponse, n'est-ce pas? Tu veux dire que tout va aller mieux lorsqu'il y aura eu acceptation? Qui doit accepter? Mon fils ou moi? En ce qui concerne mon père, comme il est décédé, il ne peut pas le faire. Que fait-on dans ces cas-là? Il n'est pas nécessaire que toutes les personnes impliquées dans une situation fassent leur processus d'acceptation en même temps. Ce qui est merveilleux avec cette notion d'acceptation ou d'amour inconditionnel, c'est que dès qu'une personne parvient à l'acceptation totale, toutes les autres impliquées dans cette même situation reçoivent l'énergie nécessaire pour le faire elles aussi. Il y a un tel rayon d'amour et de lumière qui se dégage d'une personne qui vient de s'accepter, que ce rayon s'étend jusqu'aux autres. En général, tout se déroule dans l'invisible, mais c'est très puissant. Dans ton cas, tu n'as même pas à t'inquiéter pour ton fils ou pour ton père, ni même pour ton grand-père. Tu n'as qu'à le faire pour toi, et tu verras toutes les répercussions que ça aura. Même si tes aïeuls ne sont plus là, ils reçoivent l'information au niveau de l'âme, ce qui les aide, qu'ils soient encore dans le monde de l'âme ou qu'ils soient réincarnés. De plus, cette grande réconciliation a un impact sur les générations futures. En faisant la paix avec ton fils, ça aura une influence directe sur la relation qui existe entre son propre fils et lui. J'ai bien dit que le plus important est de le faire pour toi au départ. Ce qui veut dire qu'en premier lieu, tu dois te donner le droit d'avoir rejeté ton père et ton fils et d'avoir toi aussi été injuste envers eux. Je te répète que les autres nous accusent de ce dont nous les avons accusés. Mais le plus difficile à admettre, c'est que nous nous en accusons nous-mêmes. Notre ego nous empêche de voir que nous avons pu agir de la même façon que ceux que nous accusons. C'est pour cette raison que nous ne nous rendons pas compte de l'accusation que nous portons envers nous-mêmes. Ce que tu dis est très intéressant, Lise. Mais comment y parvenir? J'ai toujours su que je préférerais ne pas être perturbée par les choix de mon fils, et j'ai beau essayer de me rappeler la méthode de pardon enseignée dans ton cours, chaque fois que je veux faire quelque chose, on dirait qu'il y a un petit démon en moi qui m'en empêche. Il me convainc que c'est mon fils qui a tort et que ce n'est pas à moi de changer d'idée. Je ne dis pas que ta méthode n'est pas bonne. Je l'ai expérimentée avec un voisin et ça a fonctionné. Avec mon fils, c'est autre chose. Il est vrai qu'avec certaines personnes, surtout avec nos proches, c'est plus difficile. Mais sais-tu que la plus grande difficulté est de s'accepter soi-même? Quand on trouve très difficile de faire une réconciliation avec une autre personne, c'est simplement parce que cette personne nous rappelle d'une façon pénible ce que nous ne pouvons pas accepter de nous-mêmes. Voilà pourquoi il est suggéré de faire la paix avec les autres en premier lieu, ce qui nous aide à la faire avec nous-mêmes. Je te suggère de faire la paix avec ton fils en passant par les mêmes étapes que j'ai indiquées plus tôt à Anna. Pour vous aider tous les deux, je vous indiquerai à la fin de l'enregistrement les 7 étapes de pardon et de réconciliation. Cela vous aidera à mieux vous préparer. Tu remarqueras, Anna, que la dernière étape est de faire le lien avec ton père, donc tout se réglera en même temps. Je leur donne le temps de lire la liste des étapes et je les sens très émus. Comment te sens-tu, Mario, à l'idée d'effectuer ces étapes avec ton fils?
Je ne sais pas trop quoi répondre pour le moment. Tout ce que je sais, c'est que je veux que cette situation change, car je n'en peux plus. Au fait, Lise, est-ce possible que ce soit ce problème qui m'ôte toute mon énergie?
Je ne peux pas répondre à cette question. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais il est certain que chaque rancune entretenue enlève de l'énergie. D'ailleurs, tout ce que nous vivons dans les mondes physiques, émotionnels et mentaux, qui est contraire aux grandes lois de l'amour, réduit notre énergie. Plus précisément, lorsque nous n'écoutons et ne répondons pas à nos besoins dans chacune de ces trois dimensions, nous nous coupons de l'énergie naturelle et puisons dans nos réserves. Mario, il est clair que depuis quelque temps, tes réserves d'énergie sont très basses. Tu auras peut-être une réponse à ta question lorsque tu auras complété ton processus d'acceptation. Je ne serais pas du tout surprise que tu aies un regain d'énergie après avoir été témoin de ce phénomène qui se produit chez de nombreuses personnes suite à une réconciliation. Je peux même te dire que bien des gens guérissent de malaise ou de maladie suite à une acceptation complète. Nous reparlerons de ce sujet une autre fois. Je reviens à ma question précédente. Comment vous sentez-vous à l'idée d'entamer ce processus d'acceptation, toi Anna, avec ta fille, et toi Mario, avec ton fils? Allez vérifier en vous ce que vous fait vivre l'idée de pouvoir le réaliser. Moi, ça m'excite de répondre aussitôt Anna. Par contre, j'avoue que j'ai des papillons dans le ventre. En même temps, j'ai peur, même si je ne comprends pas pourquoi j'ai peur. Après tout, Sandra est ma fille. Elle ne peut pas me faire de mal. Juste l'idée d'y arriver me fait ressentir une grande ouverture au niveau de la poitrine, comme si elle s'épanouissait. C'est une bonne sensation. C'est sûr que ma peur ne gagnera pas. Je sens que j'ai le courage nécessaire pour le faire. Et moi, de renchérir Mario. Tout ce que je sais, c'est que je me sens vidée en ce moment et en même temps, je me sens mieux. Je me sens surtout soulagée de savoir pourquoi je vis cette situation avec mon fils. Je ne peux pas dire que je suis excitée, mais je sais que je dois faire quelque chose. Je n'ai rien à perdre en essayant ta méthode. Juste à l'idée d'être bien avec David, quand nous nous verrons et qu'il n'y aura plus ce malaise entre nous, me remplit de bonheur. J'ai de la difficulté à croire que ça puisse arriver, mais je me sens prêt à faire ma part. J'espère que lui aussi sera prêt. Oui, Lise, j'ai compris ce que tu as dit tout à l'heure. Si je ne l'accuse pas, il sera prêt à m'écouter. Qu'arrive-t-il si, malgré moi, je l'accuse de quelque chose? Vais-je tout rater une fois de plus? As-tu entendu ce que tu viens de dire? Vais-je tout rater une fois de plus? Sois attentif à cette façon de penser. Tu pourrais commencer par dire à ton fils que, pour le moment, tu as très peur de rater ton coup en tant que père et que tu espères penser différemment un jour prochain. C'est ça, accueillir sa peur. C'est aller avec. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord, mais plutôt que tu reconnais que cette peur t'appartient pour le moment et qu'un jour, tu arriveras à croire que tu es un bon père et que tu agis toujours selon tes capacités et tes connaissances. Peu à peu, à mesure que tu apprendras à accepter cette peur, elle diminuera. Nous sommes portés à croire que, si nous acceptons une peur, elle va s'amplifier. C'est le contraire qui se passe. C'est un phénomène impossible à comprendre intellectuellement, car la loi d'acceptation est une loi spirituelle et non mentale. Donc, si tu te retrouves en face de ton fils et que tout à coup, il se sent accusé et se met en colère, tu sauras que pour toi, l'acceptation n'est pas encore complète, qu'il y a une des étapes que tu n'as pas faite. En général, c'est l'étape du pardon de soi qui est en cause. Il est très difficile d'accepter que nous avons fait aux autres ce que nous avons tant critiqué d'eux. Dans ton cas, l'acceptation sera totale lorsque tu te donneras le droit d'avoir été injuste et d'avoir rejeté ton père et ton fils au même degré que l'on fait. Si tu ne peux pas y arriver maintenant, ce n'est que partie remise. Dis à ton fils que tu n'as pas encore réussi à te pardonner et que vous vous retrouverez une autre fois. Il y a parfois des situations si douloureuses qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à une pleine acceptation. Souviens-toi du plus important. C'est ton intention qui compte et ce que tu veux finira par arriver. Par contre, n'oublie pas ce que tu veux. Nous allons nous quitter là-dessus et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches respectives. Nous nous reverrons dans 2 semaines. À retenir de ce chapitre. Lorsqu'on vit des émotions, c'est parce qu'il y a eu des attentes sans entente. Une attente n'est légitime que lorsqu'il y a une entente claire entre 2 personnes. Il est important qu'à la maison, tout comme au travail, chaque membre de la famille ait une description de tâche. Lorsqu'il y a un choix difficile à faire entre 2 possibilités, il est suggéré de vérifier sur une échelle de 1 à 10 laquelle des 2 fait le moins souffrir. Plus les parents s'acceptent tels qu'ils sont, plus leur enfant les acceptera et moins ce dernier voudra adopter des comportements contraires aux leurs pour les faire réagir. Lorsqu'il y a engagement ou entente entre 2 ou plusieurs personnes, il est suggéré d'établir en même temps les conséquences à assumer si l'une d'entre elles ne tient pas sa promesse. Établir des règles, c'est de la fermeté et non de la rigidité ou de l'autoritarisme. Plus une personne fait tout pour ne pas être injuste, par exemple, plus les autres la traitent ainsi. La plupart d'entre nous ne savons pas que nous faisons tout pour ne pas être jugés d'une certaine façon et que les autres nous jugent ainsi quand même. Accepter une autre personne signifie lui donner le droit d'être ce qu'elle veut et non lui permettre de faire tout ce qu'elle veut, surtout si ce qu'elle fait empiète dans notre espace. On n'a jamais peur pour les autres, mais seulement pour soi. Le vrai problème dans toute situation est la peur pour soi que celle-ci éveille. La loi de la manifestation dit que plus nous canalisons de l'énergie sur une chose, plus celle-ci se manifeste. Plus nous mettons de l'énergie à ne pas être comme une autre personne, plus nous le devenons. Cette loi doit être utilisée pour créer ce que nous voulons seulement. Tout ce que nous attirons de désagréable avec nos proches est là pour nous aider à devenir conscients d'un processus d'acceptation qui n'a pas été complété alors que nous étions jeunes, nous donnant ainsi l'occasion de le faire à l'âge adulte. Nos proches ne sont pas là pour nous faire souffrir, mais plutôt pour nous aider à nous diriger vers l'amour véritable. Nous attirons des expériences difficiles à accepter avec les personnes du même sexe que le parent avec lequel nous avons vécu des expériences semblables et non acceptées au cours de notre jeunesse. Lorsque nous accusons quelqu'un d'une chose en particulier, celui-ci nous accuse de la même chose. De plus, nous nous en accusons également comme nous en avons accusé notre parent du même sexe que cette personne. Il est difficile de reconnaître que nous nous en accusons aussi, car notre ego ne veut pas admettre que nous ayons pu agir ainsi. Au moment où nous faisons notre processus d'acceptation avec une autre personne, toutes les personnes impliquées dans ce problème, et ce sur plusieurs générations, reçoivent l'énergie nécessaire pour s'accepter à leur tour. Ce processus est complet seulement au moment où nous pouvons nous pardonner, nous donner le droit, sans jugement, d'avoir fait aux autres ce que nous les avons accusés de nous faire. Il est bon d'avouer une peur pour nous aider à l'accepter. Plus on l'accepte, plus elle diminue, contrairement à ce que l'ego croit. Quand on trouve très difficile de faire une réconciliation avec une autre personne, c'est simplement parce que cette personne nous rappelle d'une façon pénible ce que nous ne pouvons pas accepter de nous-mêmes.